Donc, je vais te laisser la parole, Elsa, pour ton intervention. Donc, dans le cadre, donc c'est la première soirée sur la République de l'Ethnocafé. Il y en a trois, donc à chaque thématique, il y a trois soirées, trois rencontres par an. Donc, il y aura une prochaine rencontre autour de Martin Buber. Voilà, donc ce qu'on essaie de mettre au travail, c'est cette question du lien entre la poésie et le politique. Voilà, qu'est-ce que ce serait une république de la poésie où, donc c'est évidemment tout à fait flou comme flou et vaste comme idée, mais en même temps intéressante à travailler. Voilà, et cette place du sensible, des émotions, enfin, il me semble que ton travail est tout à fait intéressant pour cette réflexion. Du coup, je te laisse la parole. Donc, tu es doctorante en anthropologie à Lyon 2. Elsa, vas-y, je te
Très bien, merci
donne la
beaucoup.
parole.
Moi, je voudrais me servir de cette présentation, surtout pour discuter avec vous, pour avoir des réflexions sur la démocratie et les émotions, aussi pour savoir ce que vous vous représentez, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous interroge, comment on peut mettre ensemble les émotions et la démocratie. Moi, je vais vous parler d'un cas, d'une école où j'ai fait mon étude, mais la démocratie et les émotions, ça ne s'arrête pas à cet endroit-là. Donc, je serais très intéressée d'avoir vos retours, mais aussi ce que vous vous représentez par émotion, parce que je pense qu'on met beaucoup de choses derrière la représentation des émotions. Et ça serait bien après de se confronter après cette présentation et de voir comment est-ce que ça a changé votre compréhension des émotions ou donc voilà pour cette petite intro. Donc ma question de recherche, en fait je m'intéresse aux émotions et notre époque. J'ai travaillé comme enseignante de français langue étrangère à l'étranger, en Allemagne notamment. Et à travers ces expériences-là, j'ai été confrontée à la question des émotions. J'entendais qu'il y avait des formations sur la communication non violente, il y avait des formations, on avait une nouvelle matière scolaire en Allemagne qui s'appelle Bonheur, d'autres pratiques éducatives autour des émotions. Puis en France aussi, la popularité d'un psychiatre français qui publie beaucoup de livres sur les émotions, qui est Christophe André. Et donc je me suis posé la question, quel est le lien entre notre époque et les émotions? Pourquoi on parle des émotions, tout d'un coup comme ça semble être devenu important. Donc c'est cette question-là qui m'a amenée du coup aussi à choisir le terrain d'enquête. Donc mon étude se situe dans une école en Italie. C'est une école primaire, publique et expérimentale. Ce sont des élèves de 6 à 11 ans qui sont dans cette école. Et cette école expérimentale et publique, depuis les années 2000, a construit, les enseignants ont construit un programme d'éducation aux émotions. Et ils justifient ça par le fait que l'école ne doit pas seulement enseigner à lire, à écrire, à compter, mais aussi à apprendre les émotions. Et ils appellent ça alphabétisation émotionnelle. Bon, ce n'est pas leur terme à eux, mais c'est intéressant ce terme, alphabétisation émotionnelle, qui me paraît inédit. Et donc, ils justifient aussi la nécessité de ce programme éducatif par rapport à des questions contemporaines, parce qu'ils ont constaté, les enseignants ont constaté qu'il y a plus d'isolement chez les élèves et plus de difficultés à gérer leurs émotions, mais aussi à créer des liens avec les autres. Ils ont senti le besoin aussi de construire ces pratiques éducatives, parce qu'ils avaient, pour eux, c'est comme si il y avait plus vraiment, il y avait une confusion morale, parce que la place de l'église, de la famille, de l'État, de l'école, perdait de son importance. Donc il n'y avait pas vraiment un guide, donc il faut créer de nouvelles valeurs pour créer une communauté. Donc c'est autour de ces problèmes que ce programme éducatif a émergé. L'école, donc ça s'appelle Scuola Città Pestalozzi, c'est une école qui a été fondée en 1945, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, aussi avec l'objectif, donc c'était une réponse antifasciste pour éduquer selon les principes démocratiques et pour reconstituer la société démocratique à travers l'éducation. Ils se sont basés sur deux penseurs principaux, notamment Johann Pestalozzi, qui est un pédagogue suisse, et le philosophe américain John Dewey. Donc le pédagogue suisse, c'était un pédagogue donc, qui a vécu au XVIIIe siècle, et pour lui, Il était assez avant-gardiste pour son époque parce qu'il était contre l'éducation de l'apprentissage par cœur et il promouvait une éducation où on apprend l'esprit critique, mais aussi, pas seulement l'esprit critique, mais aussi la capacité émotionnelle. Donc il y avait ces deux caractéristiques qu'il distinguait. Un autre, donc, le philosophe John Dewey a beaucoup influencé cette école. Pour lui, John Dewey donc, considère l'éducation comme... C'est important de s'adapter toujours au contexte dans lequel on vit, mais aussi c'est l'éducation par l'expérience. En anglais, on dit souvent en anglais « learning by doing », c'est-à-dire apprendre en faisant. Donc, pour apprendre ces principes de la démocratie, l'école était organisée comme une ville avec un tribunal, une mairie, avec un adjoint au maire, une mutuelle. Et tout ça, c'était des élèves qui jouaient ces rôles-là, mais sous la supervision des enseignants. Donc, même aujourd'hui, il y a encore cet idéal démocratique qui persiste, mais on change aussi en fonction des problématiques de l'époque, parce qu'aujourd'hui, les enseignants considèrent qu'on a intériorisé le fonctionnement des institutions démocratiques. Ça, c'était le but en 1945. Mais aujourd'hui, c'est d'autres problématiques. Donc, c'est donc notamment cette question du vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans une société aussi hétérogène, mais tout aussi en donnant la place à la singularité donc des individus. Je voudrais un petit peu m'attarder sur la philosophie, sur la conception de la démocratie de John Dewey. Pour John Dewey, en fait, la démocratie, ce n'est pas juste un mode de gouvernement, mais c'est aussi une manière de vivre. C'est une morale, c'est une éthique, c'est une vision du monde. Et cette vision du monde implique, du coup, de faire constamment des efforts pour s'ajuster aux changements de l'époque. C'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, mais ça implique de faire des efforts constamment pour s'ajuster aux contraintes de l'époque. Et donc vivre en fonction des valeurs d'une époque. Donc c'est aussi la démocratie, c'est aussi l'éducation du caractère. C'est par des attitudes que on permet à la démocratie de se maintenir, par des attitudes individuelles, parce que il suffit pas de proclamer d'être contre le nazisme ou d'être de dénoncer la haine ou l'intolérance. Si dans nos rapports aux autres, dans nos attitudes, on a des comportements comme ça. Donc, pour John Dewey, pour pouvoir maintenir la démocratie, il est important donc d'éduquer le caractère à incarner ces valeurs-là, parce que les institutions démocratiques sont la projection de ces comportements individuels, de ces attitudes individuelles. Donc, la démocratie, pour John Dewey, c'est aussi la foi dans le potentiel humain. Donc, on cherche à développer le potentiel humain et les singularités individuelles sont aussi très importantes parce qu'elles contribuent à la richesse de la vie humaine. C'est chacun avec sa façon d'être différente, ses talents, ses dons, il contribue à la démocratie et à l'enrichissement de la vie humaine. Mais c'est aussi une façon de collaborer, une façon de communiquer, d'échanger. Contrairement à des régimes totalitaires où il est parfois aussi difficile d'échanger même entre amis, la démocratie, elle crée les conditions de partage, de communication, d'échange, où même des avis divergents peuvent tout à fait trouver leur place. Et ils sont aussi importants parce qu'ils permettent de voir les choses comme elles sont. C'est à travers la confrontation qu'on arrive aussi à voir les choses telles qu'elles sont, et aussi c'est les droits aussi des individus de pouvoir s'exprimer. Donc c'est aussi cette façon de collaborer, de communiquer, et c'est aussi une façon d'être indépendant, d'être émancipé en tant que personne et de ne pas devoir obéir à une autorité pour pouvoir faire des choix existentiels. On n'a pas à subir des commandements des autres pour mener notre existence. Donc pour Dewey, c'est important, les besoins individuels et les désirs individuels, c'est ce qui pousse l'expérience humaine à se développer et à aller au-delà de ce qu'on est déjà. Donc c'est une croissance, un développement continu. Donc, cette école, elle se base sur ces principes-là pour se penser, se renouveler constamment en fonction des enjeux de l'époque. Donc, c'est pour ça que c'est une école expérimentale, c'est-à-dire qu'elle s'interroge toujours sur les conditions de l'époque pour adapter les projets éducatifs en fonction des besoins de l'époque. Donc, c'est d'où cette question, comment vivre ensemble aujourd'hui dans la diversité, dans l'hétérogénéité, qu'on doit célébrer à la fois, mais sans nécessairement étouffer les individualités, mais donner une place aux singularités. Il y a l'anthropologue français lyonnais François Laplantine qui a parlé du politique du sensible. Pour lui, en fait, la politique pose la question de comment vivre ensemble. Et le sensible, c'est le contraire de la politique. C'est ce qui échappe à l'ordre, c'est ce qui échappe à la loi, c'est ce qui échappe aux normes. Et le fait de parler de politique du sensible, c'est de trouver un moyen de créer une sensibilité commune, une manière d'éprouver ensemble pour partager, pour créer communauté. Donc c'est, de ce que j'ai pu observer dans cette école, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire à travers ces nouvelles pratiques éducatives. C'est de créer une sensibilité commune là où il y a une fragmentation du lien social. On cherche à créer ce sentiment, à consolider ce lien social, le sentiment d'appartenance, qui, d'après les enseignants, est menacé par l'individualisme. Donc, pour contrer l'individualisme et la fragmentation de la société, on cherche donc à créer des nouvelles valeurs, des nouvelles représentations à travers ces pratiques d'éducation aux émotions. Donc, les enfants apprennent à travers des contes, notamment, comment valoriser les différences, mais aussi ils apprennent une représentation du bonheur. Donc, le bonheur, il est représenté de deux façons. Il est à la fois collectif, et on insiste beaucoup sur ce point, mais aussi individuel. Le bonheur individuel, c'est le fait de connaître ses propres désirs, de s'interroger sur ses propres désirs, et faire des efforts pour réaliser ses projets, ses désirs. Et en fait, ça, c'est aussi l'émancipation. On cherche à émanciper le sujet. Le fait qu'il connaisse ses propres émotions, ça le permet de savoir qui il est et de s'orienter. La connaissance de ses émotions, c'est une manière pour lui de s'orienter dans la société. C'est comme une boussole. Parce que les autres, ils ne peuvent pas savoir, d'après les enseignants, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent. Ils ne peuvent pas savoir qui on est, mais c'est à nous de savoir pour pouvoir aussi s'orienter et faire des choix. Parce que les émotions, ça représente aussi nos valeurs, ce qu'on aime, donc ce qui compte pour nous. Et souvent, ils disent que certains enseignants disent qu'ils ont écouté parfois leurs parents ou leurs amis. Ils ont fait des choix existentiels qu'ils ont regrettés après parce qu'ils ne se sont pas suffisamment connus eux-mêmes. Ils n'ont pas connu leurs propres désirs. Donc, c'est important de développer cette capacité d'agir chez les élèves pour qu'ils puissent ne pas être ballottés par leurs émotions, qu'ils puissent les connaître et les gérer et aussi s'orienter en fonction de leurs émotions. Donc, ça, c'est une façon d'émanciper le sujet par rapport aux émotions. Et pour ce qui est de la question du lien social, pour le renforcer, on insiste beaucoup sur le soin, prendre soin des uns et des autres. Il y a des enfants handicapés dans cette école et on attire souvent l'attention sur le fait qu'ils ont besoin d'aide, etc. Donc on essaie de développer l'empathie, pas seulement vis-à-vis de ces enfants-là, mais aussi quand un enfant est seul dans la cour, les enseignants ils demandent aux autres d'aller leur parler ou de les intégrer dans le groupe. De faire toujours attention, d'essayer de lire et de comprendre les autres à travers l'expression non-verbale de leurs émotions. Et aussi, on insiste beaucoup à travers les contes, donc, de transmettre cette idée que le bonheur est possible et souhaitable seulement quand il est partagé, surtout quand il est partagé, parce que donc pour créer ce sentiment d'appartenance, on insiste sur ces points-là et on met en avant le fait que le contraire du bonheur, c'est la souffrance, et la souffrance représente la solitude, représente le fait de ne pas communiquer, de rester sur les conflits, de ne pas résoudre les conflits. Donc, Il y a un conte aussi à travers ces contes qui racontent pour vraiment transmettre ces valeurs-là. Il y a un conte chinois qui s'appelle Paradis et l'Enfer. Pour moi, c'est vraiment très représentatif de la manière dont ils cherchent à façonner leur représentation du bonheur. C'est qu'un samouraï va à l'enfer et là, il arrive dans une salle où il y a beaucoup de nourriture et des gens tout autour d'une table et ils sont tous tristes parce qu'ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ont des fourchettes énormes. Et le paradis, c'est exactement la même scène. Sauf que les gens ne sont pas maigres et pâles et tristes comme l'enfer, mais ils sont tous joyeux, c'est les mêmes conditions, mais ils se nourrissent les uns des autres avec ces grosses fourchettes. Donc ça, c'est la représentation du bonheur, le fait qu'on partage, donc le partage, le fait de prendre soin des uns et des autres, c'est ça le bonheur. Il y a aussi l'idée du bonheur, donc, comme je disais tout à l'heure, individuel. Donc il y a ces deux notions, mais ils insistent beaucoup sur cette notion du bonheur partagé, parce que c'est ça pour eux qui est menacé. Les enseignants cherchent à réparer ce lien social qui pour eux est menacé à cause de l'individualisme. Il y a donc d'un côté cette représentation c'est à travers les représentations qu'on essaie de créer communauté, mais c'est aussi à travers des pratiques. Par exemple, il y a la pratique de résolution de conflits. Là, les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions à travers un dispositif de régulation collective des émotions où ils ont une boîte, dans chaque classe, ils ont une boîte qui s'appelle Protesta, ça veut dire je proteste, et ils écrivent des plaintes par rapport à des conflits qu'ils ont vécus durant leur journée à l'école. Ça peut être des plaintes pendant qu'on mangeait au repas, quelqu'un m'a jeté du riz sur la figure. Ça peut être des choses comme ça. Et donc, après, il y a aussi des juges. Donc, il y a 4 élèves qui sont juges. Et ça change tous les 2 mois pour donner la possibilité à tous les élèves d'avoir ce rôle de juge. Et si le problème n'a pas été résolu à travers les discussions en classe avec l'enseignant, c'est les enseignants qui vont discuter dehors avec les 4 juges pour trouver une solution et punir la personne et lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Donc je vais vous décrire un cas peut-être pour vous donner un peu plus de profondeur à cette idée. Il y a une élève qui a porté plainte contre son amie qui lui a dit pendant le repas, lui a demandé qu'est-ce que tu manges, elle a dit c'est dégueulasse ce que tu manges. Et puis l'enseignante a lu le billet et a demandé du coup à cette élève qui ont reproché ses propos de s'expliquer. Elle a dit bon, c'était pas ce que je voulais dire. Moi, je voulais juste dire tout simplement que j'aime pas ça. Et donc, elle n'a rien dit. L'enseignante, elle sert un peu de modérateur. Elle donne pas de jugement de valeur sur ça. Elle fait parler les élèves. Donc, elle a donné la parole à d'autres élèves. Et certains ont dit que oui, ils avaient ils avaient aussi connu avec elle ce même comportement, parce que elle leur a fait des remarques sur leur goût, elle a critiqué, etc. Elle les a critiqués. Et les élèves sont assez à l'aise de parler des choses, de dire, de dénoncer, sans pour autant avoir peur qu'il va y avoir des représailles après, parce que les enseignants veillent tout le temps à ce qu'il y ait une bonne communication, et après, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils ressentent. Donc chacun disait assez librement ce qui s'est passé. Et donc, comme les enseignants ont trouvé que c'était un problème assez répandu, donc il fallait vraiment sortir avec les juges et décider de ce problème, trouver une solution pour lui donner une punition. Et donc, la punition, après la discussion, un des enseignants aussi a pointé que cet élève avait l'habitude d'être très méprisant vis-à-vis des autres. Donc, il avait remarqué ça et donc il fallait absolument qu'elle comprenne que ce n'est pas une attitude acceptable. Donc, ils ont décidé qu'elle ne va pas manger pendant 2 jours. Elle ne va pas manger devant les élèves. Elle va manger toute seule devant la fenêtre. Donc, comme ça, elle ne va pas être confrontée aux autres. Elle va avoir aussi l'occasion de réfléchir et de se poser des questions sur son comportement. Et donc, on lui annonce sa décision. Et on explique aussi pourquoi on a pris cette décision. On lui dit que ce n'est pas pour t'embêter. La prof précise, parce que les élèves ne pas vraiment précisé, mais la prof elle précise que c'est pour lui faire comprendre que que c'est quelque chose que la classe ne tolère pas, qu'on n'accepte pas un comportement. Et ce qu'on lui reprochait, c'est que c'était pendant le moment du repas, qui est un moment de joie, un moment presque sacré, parce que ces enfants n'ont pas beaucoup de moments de partage entre eux, parce qu'après l'école, chacun va faire différentes activités. Donc les enseignants veulent vraiment faire en sorte que ce moment entre eux soit vraiment très important. Donc on lui reprochait qu'elle a cassé la joie du moment de repas en disant que c'était dégueulasse qu'elle mangeait, donc elle a un peu cassé l'ambiance. Donc ça c'était un exemple de cette façon de réguler les émotions collectivement. Et en fait, c'est cette façon, donc cette pratique de résolution de conflits a deux objectifs. À la fois, c'est de permettre aux élèves de prendre en considération leurs propres émotions, de les considérer comme étant légitimes, pour ne pas être, pour ne pas affronter des attitudes arbitraires vis-à-vis d'eux, et donc considérer comme légitime le fait qu'ils se sont sentis blessés par d'autres, et donc de réclamer un traitement juste de la part des autres. C'est le but en fait de ces activités, de créer ce rapport à soi-même où on a droit de dire qu'on a été blessé. Mais en même temps, c'est aussi d'apprendre à négocier, d'apprendre à vivre ensemble en prenant en considération les différentes sensibilités. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, là, c'est la négociation qui est importante. Il y a une façon de réguler les émotions et les relations qui n'est pas donnée une fois pour toutes. C'est pas une fois on fait ça et basta, tout le monde doit respecter ces mêmes règles de comportement, mais c'est à chaque situation, à chaque cas, qu'on discute. Parce que les relations sont complexes et les situations sont différentes et les personnes sont différentes. Donc, à chaque fois, on va prendre le temps de discuter et de négocier autour de ces problèmes. Parce que ça veut dire qu'on laisse la place aussi à chacun de s'exprimer et de dire ce qu'il ressent. Donc, c'est une façon de composer avec la différence et de prendre en considération les désirs, les besoins des uns et des autres. Et aussi de faire toujours attention à la fois à l'harmonie collective, de comprendre que les relations sociales, c'est pas quelque chose qui va de soi, mais qui implique toujours une attention, un soin et une négociation, un dialogue, un échange. Donc voilà, j'ai fini avec ça. Après, je voudrais discuter avec vous si vous avez quelque chose sur lequel vous voudrez rebondir. Sinon, moi, je voudrais peut-être parler d'autres choses qui... Après, je ne veux pas orienter la discussion. Parce que pendant que j'écris ça, il y a une des choses qui se sont passées en France qui m'ont un peu, questionnée. Et j'ai fait un peu le lien avec ce que j'ai vu dans cette école, mais je ne veux pas parler de ça tout de suite. Je voudrais d'abord...
Mais elle est extraordinaire, cette école. C'est quelque chose de très rare.
Oui, ils travaillent beaucoup sur les relations. Après, il y en a qui se plaignent parce qu'ils ne travaillent pas bien à l'école. Parce qu'ils mettent toute leur énergie sur les relations sociales et l'éducation de la personne.
Justement, quand on voit le harcèlement en ce moment dans les écoles avec les enfants, je trouve que c'est terrible ce qu'on constate en ce moment.
Oui.
Ce rapport violent entre élèves.
Oui, oui.
C'est une chose dont je n'avais pas le souvenir. Enfin, j'avais pas l'impression que ça pouvait être à ce point.
Oui, c'est fort. Ça.
Ouais, oui. Je suis absolument frappée.
Oui, ça c'est intéressant ça. Parce que moi je me pose la question, est-ce que le harcèlement c'est aussi quelque chose par le fait qu'on reconnaît les droits des personnes, que du coup on parle, ou est-ce qu'il y a plus d'harcèlement? Je sais pas.
Ah, oui.
Ça c'est une question que je me pose.
Oui. D'accord.
Mais peut-être qu'il y a plus d'harcèlement, je sais pas, il y a plus de tension, je sais pas, ça reste des questions assez vastes.
Moi, je me posais la question quand tu disais ça. Au niveau des enseignants, est-ce que tu as pu assister à des réunions? Quelle est la régulation aussi entre eux? Parce que souvent, il y a des choses qu'on exige aux enfants, aux élèves, et qu'on ne peut pas toujours...
Ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai remarqué qu'eux-mêmes, ils se fuyaient souvent les uns les autres. C'est comme si, en fait, eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à régler les problèmes. Et c'était dans la fuite. Et du coup, ils mettaient toute leur énergie à enseigner aux élèves ce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas en mesure d'appliquer. Oui, il m'a semblé qu'il y avait, beaucoup d'ennuis, des tensions, mais bon, des fois aussi, ça...
Ouais. Ça, ça pose la question de savoir, est-ce qu'on veut que l'école elle soit... Elle prépare les enfants à ce que le monde est, ou est-ce que le but de l'école, c'est de les rendre meilleurs et de... Alors, si les enseignants ont plus de mal, enseigner aux enfants des choses qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes, c'est qu'ils ont l'espoir que ce sera mieux dans le futur grâce à ce qu'ils font.
Oui.
Mais en même temps, on se pose la question de savoir est-ce qu'on prépare bien les enfants à la... C'est-à-dire, quand ils sortiront de l'école, ça sera peut-être un peu plus difficile pour eux.
Oui, je ne sais pas, parce que je pense que c'est... Presque, c'est comme si une façon de se réparer eux-mêmes. C'est comme si eux-mêmes n'arrivaient pas à faire, à réaliser ça. Et donc, en quelque sorte, ils faisaient, oui, ils transposaient ça dans l'éducation parce que c'est plus facile à éduquer que ça. Oui.
Mais en même temps.
Malléable.
Oui.
Je sens quand vous dites, je me demandais si c'était vos mots ou si c'était... Enfin, s'il y avait une différence entre vraiment ce qui se passait et vos mots, parce que vous dites casser la joie de ce moment.
Oui.
Donc, j'entends quelque chose presque de violent, parce que comme si la joie devait être l'unique émotion.
Oui.
Et donc, il fallait forcer la joie.
Oui.
Et si on cassait cette joie, eh bien, il fallait être puni. Et là, la punition me paraît étonnante, parce que je me dis que cette personne, qui peut-être cet enfant qui méprise, si elle méprise, c'est que peut-être elle vit quelque chose de méprisant ailleurs.
Oui.
Et ce n'est pas pris en compte.
Non.
On utilise la punition.
Oui.
Sans comprendre finalement pourquoi cette émotion de violence envers les autres jaillit.
Oui. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, j'ai remarqué que dans certaines situations, ils sont compréhensifs du contexte de vie de l'enfant.
Ouais.
Mais dans d'autres, par exemple, dans des attitudes de mépris ou d'arrogance, ils deviennent des chacals, les enseignants. Ils supportent pas ce genre de comportement. Alors qu'un étudiant étranger, par exemple, qui parle pas bien, dont les parents sont alcooliques ou je sais pas quoi, on va tout de suite être beaucoup plus tolérant alors qu'il fait, il embête tout le monde, il casse tout, on lui dit rien. Alors qu'un enfant qui est arrogant ou qui a, enfin, de leur terme, qui est arrogant ou qui cherche à se montrer supérieur aux autres, là, ils n'ont pas de pitié. Là, il faut vraiment les cadrer.
Ça, c'est très étonnant parce que ça veut dire qu'il y a une méconnaissance finalement psychologique de pourquoi un enfant arrive à être méprisant. Et c'est souvent des problèmes narcissiques. Et,
oui.
Et donc, c'est plutôt un problème de l'enfant. Enfin, l'enfant souffre finalement s'il il est amené à faire ça. Et je trouve ça assez étonnant. Donc, quand vous disiez... C'est exceptionnel, oui, mais en même temps, je sens quand même une sorte de, ouais, d'un idéal qui peut parfois être violent.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, moi, je pense qu'il part aussi parce que cette prof, elle est prof enseignante, mais elle a fait beaucoup de formations toute sa vie de psychologie. Ah. Donc, elle est psychologue de formation.
D'accord.
Mais c'est comme si leur idéaux, ils viennent avant tout. Donc là, on ne cherche pas à comprendre la personne dans son contexte, mais il faut absolument plaquer ses idéaux parce qu'il y a derrière cette inquiétude que le lien social va se dissoudre si on laisse passer ces attitudes d'arrogance et de mépris, etc.
D'accord.
Je ne sais pas qui.
Non, c'est vraiment parce que j'allais aller un petit peu dans ce sens-là, mais peut-être exprimer un petit peu différemment. Ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est qu'il y avait un vrai encouragement à ce travail de prise de contact intérieur. En fait, c'était très valorisé finalement, et donc de régulation des conflits. Mais jusqu'où on va autoriser la libre expression de soi finalement et la manifestation de ses émotions? Quels sont les critères d'importance majeurs à ce moment-là? Parce qu'en fait, cet enfant qui exprime finalement un dégoût, un mécontentement, elle exprime une émotion. Donc, immédiatement, il y a comme un jugement de valeur qui est porté. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, je sens presque une contradiction de, à la fois, on valorise, on essaie de laisser la place à chacun dans la libre expression de soi, et à la fois, en fait, le vrai critère d'importance majeure, ça va être l'harmonie collective. Et donc, c'est ce tissage de liens d'ensemble, en fait, pour préserver une émotion qui, effectivement, je ne sais pas si c'est la joie le critère, mais moi, je dirais plus, oui, comme une harmonie. Et donc, comment, en fait, on peut préserver l'harmonie collective s'il y a des censures, quand même, à ces endroits-là? Moi, c'est vraiment la question que je me pose après t'avoir écouté.
Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est toléré du point de vue de la personne, c'est aussi sa souffrance. Donc ça, c'est important de lui donner, de donner beaucoup d'importance à la souffrance et de faire comprendre aux élèves leur souffrance, parce qu'ils disent que si on apprend à reconnaître sa souffrance à un jeune âge, on ne s'habitue pas à souffrir et à subir la souffrance. Donc ça, on met vraiment beaucoup d'attention là-dessus. Et après, le reste, c'est aussi, par exemple, les émotions par rapport au choix existentiel, des choses comme ça, par rapport au goût, aux passions. Donc ça, on cherche à cultiver. Mais dès que ça empiète sur les autres, donc on cherche à faire comprendre que si tu exprimes, si tu souris pas, si tu es désagréable. Parce qu'il y avait une fille qui se plaignait, mais personne joue avec moi. La prof lui a dit, t'as vu, tu souris jamais. Je pense que quelqu'un qui sourit pas, il va avoir des amis. Donc tout le temps, ils sont en train de montrer que l'expression. Oui. Oui, c'est ça. C'est des normes émotionnelles. Et donc pour répondre à, pour s'inscrire dans une société, donc il faut. Faut correspondre à ces normes-là, et eux, ils établissent ces normes-là, mais aussi en fonction des problèmes de notre époque, du contexte aussi. Mm-hmm. Je ne sais pas comment c'était en 45.
Peut-être Stéphanie, après...
Moi, j'avais juste envie de revenir sur les trois mots qui me semblent un petit peu le trépied de ce que tu exposes, bonheur, désir, émotion. Mm-hmm. Enfin, un petit peu comment ils s'articulent, si j'ai bien compris. Bonheur, c'est leur objectif. En tout cas, peu importe, parce que c'est vaste comme... Mais du coup, l'émotion là-dedans, ça va être la jauge du désir, c'est-à-dire que ce désir-là, je me le valide comme objectif parce qu'il ne m'apporte pas la peur, il ne m'apporte pas le... Voilà. Comment se situe l'émotion dans ce trio-là ?
Donc, ils apprennent à reconnaître les émotions. Il y a les 6 émotions de base, ils se basent sur cette conception scientifique des émotions. Et donc, ils leur apprennent que c'est important de savoir gérer, par exemple, la peur, la colère, la frustration. Mais le désir, c'est quelque chose qui est à cultiver. Donc, c'est là, on explique tout simplement comment fonctionnent les émotions. On ne va pas chercher à leur demander... Bon, on leur demande qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu souhaites, juste pour leur faire comprendre qu'ils peuvent se poser ces questions-là et connaître leur désir. Mais après, ils n'interviennent pas plus que ça. C'est juste pour... faire un peu un cadre des choses et séparer. Donc ils insistent sur le fait que eux, ils ont la capacité d'agir sur leurs émotions et qu'ils ne sont pas laissés balloter par les émotions.
C'est cette faculté d'agir sur leurs émotions,
oui.
De les reconnaître et d'agir dessus qui va leur permettre d'accéder à une réalité qui va plus être...
Oui, ou bien de ne pas être, par exemple, quand ils sont frustrés, en colère, de ne pas se laisser... porté par la colère, mais de comprendre que si je nomme la colère, donc j'identifie dans mon corps, je me pose la question qu'est-ce qui a déclenché la colère, au lieu d'être complètement dans la confusion et ne pas savoir ce qui se passe.
Ce qui ressemble à la méditation.
Oui. Simplement, c'est des associations qui ont lien à faire avec la notion de fraternité dans la République. Autre chose, c'est que, bon, c'est les lectures, ça. On a actuellement une société qui a éclaté, avec des tas de groupes identitaires à leur manière, qui semble-t-il s'excluent et n'ont pas envie de collaborer. Donc on est dans des schémas d'exclusion, et on ne peut pas dire que ça fasse société et que ça fasse effectivement fraternité. Donc j'ai envie de passer du groupe des enfants au groupe des adultes actuellement, pour dire est-ce que les enfants sont finalement une image d'un fonctionnement social qui existe actuellement chez les adultes. Voilà. Alors par ailleurs, je suis assez sensible au fait que, mais je ne sais pas comment le traiter, que les émotions sont extrêmement importantes actuellement dans la littérature. On a le camarade Rosanvallon qui l'a ces jours-ci, et qui, dans ses études actuellement sur ce qui gêne dans l'accession à la pensée un peu politique de la société, c'est qu'effectivement les gens ne sont pas pris en compte dans leur expérience, mais dans les expériences au sens le plus viscéral et émotif. Donc on retrouve tous ces thèmes-là aussi, puis je me jarrie parce qu'il y a plein de trucs qui résonnent et je ne vais pas traiter ça maintenant ici. Ce sera pour une autre fois ou ailleurs.
Oui.
Tu veux réagir avant de donner la parole à M. Brézé ?
Je vais réagir plus tard.
Sur ce que tu veux dire après.
Oui, c'est dans la deuxième page.
Oui,
c'est ça.
Je me suis intéressé à la démocratie par admet tout le monde de pensée. par exemple, admet le satanisme qui a pu nous sauver. Par exemple, même si ces lieux sont infiltrés, et sont surveillés, la démocratie admet les pensées les plus contradictoires qui sont admises comme une totalité, qui doit être admise en totalité en démocratie. C'est la tolérance poussée normalement à son maximum. Or, dans le domaine de tolérance, il peut y avoir des rapports factieux de malveillance, de rapports politiques factieux. On a vu ça au niveau du nazisme, d'autres ordres factieux, d'ordres de politique étrangère, d'ingérence et de manipulation, surtout dans le domaine sectaire. C'est un domaine moi, par rapport auquel je me suis très intéressé. C'est-à-dire tout ce qui est dérive sectaire sont des choses qui sont tout le comportement inacceptable par rapport à la femme, admettons, par exemple, les inégalités hommes-femmes sont encore admises en démocratie, qui est encore une démocratie balbutiante et qui n'est pas la démocratie idéale. Donc, également, comment dire, le bouddhisme parle d'état d'être qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire un état d'être où tout est vu à égalité, aucun plan n'est supérieur à l'autre, tout est vu à égalité, avec la même intensité, on a la même équanimité. Donc quelque part, je pense qu'il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, et il y a également une surveillance aussi qui est démocratique actuellement, que l'on voit toutes ces caméras, toutes ces choses, on rentre dans un rapport comme ça de surveillance, mentalement qui sont durs à avoir une vision globale, parce que ce sont des rapports qui rentrent dans la psyché. Quand on arrive quelque part, quand on sait qu'on est filmé, psychiquement, on n'a pas le même comportement. Même dans les églises, maintenant, vous avez arrivé au cierge, il y a une caméra. Donc parce qu'il y a eu des attentats dans l'église. Mais donc, quelque part, voilà, donc la démocratie idéale, je pense qu'on est loin. Peut-être qu'il faut admettre par moment une rétrogradation apparente, de rapport rétrograde, et penser qu'il y a une pensée positive. Dans certains cas, il est nécessaire que la démocratie s'accompagne de lucidité, d'objectivité et de critique. Ne pas accepter un pouvoir trop naïvement, et quelque part être acteur de sa propre démocratie consiste à avoir la liberté totale de penser, d'état d'être, le bonheur absolu. Mais ça reste un rapport individuel. Mais dans le rapport individuel, on rejoint le monde en soi, et en réalité. Donc, quelque part, si on est amené avec soi-même, on est amené avec les autres.
Oui, par rapport à la surveillance, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Je pense que c'est très complexe. Et je pense qu'il y a aussi les émotions derrière. C'est aussi la peur et la recherche de la sécurité qui nous pousse à faire ça. Je ne sais pas. C'est très vaste. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait réagir là-dessus. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça.
Et bien, Amy, vous vouliez prendre la parole ?
Pour moi, il y a aussi une instrumentalisation de la peur là-dedans. Enfin, il y a un double jeu, en fait, qui se crée aussi là-dedans. C'est qu'en même temps, il y a une chose qui est assez intéressante de prendre en compte les émotions et de savoir les reconnaître pour nous et pour comprendre, et celles des autres pour aussi essayer de se comprendre, s'entendre. Et je pense que la grosse prise en compte des émotions aussi, je pense qu'il y a un jeu, une instrumentalisation de certaines émotions par rapport aussi à ce qui peut se passer en ce moment, sur la peur notamment, et de tout ce qui peut passer sous ce biais-là, et avec une espèce de sentiment de sécurité qui est peut-être pas...
Les manipulations.
Oui,
il y a des manipulations, il y a des manipulations d'ordre, je dirais, sectaire et invisible, qui peuvent, comme le nazisme, qui était au premier par Mansell, et ces formes de pensée-là, il faut ne pas être s'illusionné sur ces rapports-là, qui sont des rapports occultes, agissant également, et être manipulé, être pensé, Il y a des gens qui se font un plaisir de penser pour les autres, dans des buts des fois sectaires et manipulés.
À quoi ça sert et à qui ça profite?
Ça, la malveillance.
Tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné les six émotions principales, qui est l'un des modèles que cette école utilise, n'est-ce pas?
Oui.
Et alors, dans ces émotions, il y a la peur, il y a l'ennui, enfin le...
La surprise, la colère.
Voilà, enfin,
peut-être la félicité, peut-être les six.
Ouais. Oui, donc la peur, la colère, la
tristesse.
La déception, non, la surprise.
Le dégoût.
Le dégoût.
Et le deuxième.
La joie, oui. Et donc, eux, ils remplacent par le bonheur.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'exemple que tu as donné, ouais, c'est intéressant parce que, par exemple, là, visiblement, cette fille avait deux émotions, un dégoût, qu'elle exprime peut-être pas, et puis une tristesse ou quelque chose. En tout cas, typiquement, pour avoir une copine d'enfant, c'est important d'en avoir un endroit où ils peuvent être tristes. On a un endroit où ils ont le droit d'être seuls et de gérer. Ça, c'est un truc qu'on fait avec des enfants, un canapé ou un lit, voilà. Enfin, un espace où ils sont seuls pour pouvoir se... Et la punir en allant se manger tout seul devant la fenêtre, moi je vois pas ça une punition. Pour beaucoup d'enfants, les enfants ont besoin d'un moment de solitude et c'est constructeur parce que ça permet de gérer sa tristesse. Et j'ai l'impression que c'est pas explicite dans cette école, alors que j'entends, monsieur, et vous avez tout à fait raison, apprendre très tôt à comprendre que avoir peur c'est quelque chose qui arrive, mais qu'il faut pas se laisser, enfin que c'est dangereux la peur dans certains cas, c'est vraiment, enfin c'est la plus belle chose qu'on peut apprendre à des enfants, je crois, et plus que la joie elle la prend toujours. et est-ce qu'ils insistaient aussi sur d'autres l'apprentissage et la gestion d'autres émotions individuellement et collectivement à part, parce que c'est ça qui était bizarre. Le dégoût, ça peut être collectif. Le dégoût, c'est très dangereux. Quand même.
Oui, après, ils considèrent les émotions par rapport à la situation et par rapport à ce que ça fait à la collectivité. Là, c'était le but de faire comprendre à ce sujet l'expression, les normes de cette école, donc de lui faire comprendre les normes de l'expression des émotions qui ne sont pas donc, l'expression du dégoût comme ça dans ce contexte-là. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable socialement. Donc, si tu veux être intégré dans le groupe, il ne faut pas casser l'ambiance. Voilà.
Le racisme aussi. Le racisme, c'est notre mieux, le racisme. Le racisme interethnique. On parle de l'Occident, les ethnies entre elles peuvent se tuer. Il y a un rapport viscéral de racisme, de haine, que l'on trouve dans la jeunesse actuellement. Je ne dis pas chaque être, par essence, est une personne extrêmement intéressante. Mais le rapport viscéral. L'atavisme également, le désir, la perversion, tout n'est pas qu'évolution vers l'élévation, vers la transcendance. Il peut y avoir, pour certaines personnes, des périodes de rétrogradation, de perte de situation, et la démocratie ne tolère que des gens perdent leur situation, se retrouvent mis à la rue, qu'il y ait des femmes prostituées, dans l'indifférence la plus totale. Cette démocratie idéale que l'on prêche chez les Grecs était une démocratie qui fonctionnait avec les dieux et les déesses et les divinités. C'est un rapport au cosmos. Or maintenant, maintenant, c'est Internet, c'est la physique quantique, c'est le phénomène des galaxies. Mais quelque part, également le rapport du pouvoir et l'inégalité des chances à la naissance. Donc il est nécessaire en démocratie d'instituer une égalité culturelle pour tous. Donc je pense qu'on va vers le meilleur. Moi je pense que je suis positif, mais je pense que voilà. Donc mais
peut-être qu'on peut faire tourner un petit peu. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de ramener à la aux Grecs là et au rapport cette façon d'utiliser la mythologie pour finalement pour habiter ce rapport au monde. Est-ce que ces enfants-là, est-ce qu'il y a des... Parce que c'est une école expérimentale. Est-ce qu'on s'est intéressé à ce qui se devenait...
Les Grecs étaient quand même très sélectifs, comme s'appelait ça, que les groupes sociaux n'avaient pas les mêmes pouvoirs, que c'était une démocratie qui concernait un groupe en particulier que les autres n'avaient pas. Enfin, oui. C'est un petit détail en passant, comme ça.
Mais, ce fait une autre
mais il faut aussi qu'on prenne du temps pour entendre votre deuxième et troisième partie.
Oui, du coup.
Est-ce qu'on s'est intéressé à ce que deviennent les enfants après? Tu disais qu'on leur reprochait finalement de pas. Pas comment tu disais tout à l'heure, de travailler sur les émotions, mais pas de devenir, d'acquérir les compétences peut-être que la société attend d'eux. Qu'est-ce que deviennent, est-ce qu'on, enfin, il y a une étude un peu de sur
non,
ce que deviennent
non,
les enfants après.
Non, ça, j'ai pas cherché à comprendre parce que d'accord. C'est plutôt des questions contemporaines qui m'intéressaient, pas ce que les enfants retiennent. C'est pour comprendre le contemporain à travers cette école-là. Comment on invente des nouvelles façons d'être pour répondre à des problèmes de notre époque. Comment cette école-là y répond?
Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que les enseignants veulent.
Oui.
Et je me dis, on enseigne qui on est.
Oui, c'est ça.
Et comme on accompagne les gens, comme on est, quoi. Enfin,
oui.
Et c'est ça qui me gêne. Et je trouve que, moi, je verrais pour, dans un premier temps, un accueil, que chacun puisse s'exprimer, écouter ce qu'un enfant a à dire. Je verrai dans cette écoute, dans cet accueil de la diversité des paroles d'enfants.
Oui.
Et ensuite, petit à petit, il y a quelque chose qui se crée avec cette écoute, cette attention à l'autre, et qui permet d'envisager. Moi j'étais instite, et donc j'ai le souvenir d'une classe très difficile au début d'année. Et donc on se réunissait à chaque début de matinée et d'après-midi. Et on présentait le programme. Certains pouvaient, pouvaient demander, poser des questions. Et c'est surtout aussi au retour des récréations. Parce que j'avais observé, ils étaient complètement perdus. Les grands leur demandaient des choses. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient dire non ou oui. Et donc, spontanément, on avait un temps de parole et d'échange. Et ce qui était extraordinaire, ça a mis beaucoup de temps, mais après, au bout de 2-3 mois, c'était les élèves qui conseillaient les autres sur ce qu'ils pouvaient dire, pas dire. On a l'impression de perdre du temps, mais c'est énormément de temps, mais c'est dans l'écoute.
Oui, non, ils font ça aussi. Ils passent beaucoup de temps à parler, vraiment beaucoup de temps. Par exemple, si quelqu'un a perdu un parent ou un chien ou je ne sais pas quoi, ils prennent vraiment le temps, ils arrêtent tout, ils prennent le temps de discuter. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de leur... Ils ont différentes pratiques autour de ça. Des cercles de parole, enfin, je sais pas, il y a plein de pratiques.
Moi, c'est en démocratie, avant de prendre conscience de que si on a le bonheur soi-même, avoir l'empathie, de voir que certains de nos frères sont dans les plus graves difficultés, et une sorte de conscience interne qu'on peut partager en tout, et qu'on n'a pas le droit d'arriver juste au bonheur pour soi, et qu'en réalité que peut-être le bonheur suprême consisterait à des valeurs comme l'amour, le souhait d'être utile au prochain, et idéalement d'arriver à la paix dans le monde. C'est pas tout le monde qui a ces valeurs.
Oui.
Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, il y a des gens brutaux, qui se moque pas mal du prochain, il y a des gens malveillants de nos patients.
Mais c'est ça, mais je pense que justement ces enseignants, c'est à cause de ces peurs-là qu'ils réagissent comme ça. Et je voulais rebondir à ce que vous disiez, parce que c'est des enseignants, mais c'est aussi des personnes avec leur histoire, et ils façonnent le monde à partir de leur propre subjectivité, à partir de leur propre vécu. C'est ça que j'essaye de montrer en anthropologie, enfin en sciences sociales. On déconstruit, c'est pas pour montrer que cette école, ce qu'elle fait, c'est bien. C'est pas du tout ça. C'est pour montrer aussi comment on cherche aussi... Les enseignants, ils réalisent leurs idéaux, ils façonnent le monde à leur image, parce qu'ils ont aussi ce pouvoir de transmettre, d'éduquer. Donc, ils ne vont pas éduquer, transmettre des principes qui n'ont rien à voir avec leurs propres valeurs. Donc, ça montre aussi qu'il y a une part de subjectivité qui est très importante, et que les profs, ce n'est pas juste des techniciens qui appliquent un savoir d'une manière décontextualisée, mais ils transmettent leur personne aussi. C'est comme si le monde les traverse aussi à travers leur corps et à travers leurs esprits. Leur esprit, et c'est...
C'est surtout ce que les élèves reçoivent.
Oui.
Qui on est.
Oui, mais je pense qu'il y a cette idée aussi de façonner l'élève à son... comme on pense, comme un parent. Je pense qu'un parent aussi va éduquer un enfant comme il pense que c'est juste. On ne veut pas écouter, si on est dans certains milieux, on ne veut pas faire écouter un enfant de la musique, je ne sais pas moi, qui n'a rien à voir avec nos goûts.
Vas-y, balance.
Oui.
Mais on parle là beaucoup d'émotions individuelles, mais en fait, en termes de démocratie, moi, je m'interroge plutôt sur l'émotion collective. Mm. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'émotion collective, elle peut être hyper constructive. Ça va y avoir des choses magiques qui se créent, comme quand il y a des choses formidables qui se sont créées quand il y a eu le confinement en France. Il y a des réseaux de solidarité locaux qui sont mis en place à une vitesse énorme, ce qui montre qu'il y a quelque chose de latent hyper positif. Et il y a des émotions hyper négatives qui nous empêchent de vivre ensemble, qui sont la peur de l'étranger, la peur de celui qui a une religion différente, la peur de celui qui vient d'un pays différent, qui sont aussi des émotions collectives. Bien sûr, elles se répercutent au niveau individuel, mais c'est ça qui compose une et qui fait faillir une démocratie. Moi, j'ai l'impression, je me base sur rien, une démocratie. Et si on n'arrive pas à créer des émotions collectives positives, parce que les gens, quand on a des émotions négatives, on n'est pas heureux, enfin, ou alors on est maso, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais du coup, comment créer une démocratie fondée sur des émotions positives et constructives de vivre ensemble?
Ben, moi, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est que tendre vers ça, vraiment, à travers aussi ces histoires que les enfants entendent, mais tous les jours, on répète ces histoires où les souffrances, c'est à cause de l'isolement, c'est à cause du fait que moi, je me fais des films au lieu d'aller parler avec toi pour résoudre un problème. Donc constamment, on les expose à ces façons de voir le monde. Comme s'il y avait une dichotomie. D'un côté, la souffrance, c'est clairement l'isolement. Et le fait, par exemple, de chercher à atteindre ses objectifs tout seul, c'est considéré comme quelque chose qui vraiment n'est pas souhaitable. Donc, et on fait répéter aussi à ces enfants. Enfin, on les fait résumer aussi ces histoires pour qu'ils s'imprennent que la solitude, l'isolement, etc., c'est pas des choses souhaitables. Et le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, et l'amitié, on célèbre l'amitié à travers à travers ces punitions-là. On rappelle l'importance de l'amitié. Il y a un double jeu. À la fois, on empêche une personne d'exprimer une certaine émotion, mais c'est surtout pour mettre l'accent sur l'importance des liens sociaux. Donc il y a tellement cette inquiétude derrière qui pousse les enseignants à exagérer au point où on veut vraiment mettre en valeur le lien social.
Et moi, j'aurais aimé savoir, du coup, cette jeune fille qui a été punie quand même par ses pères, qu'est-ce qu'elle en a tiré? Est-ce qu'elle a été frustrée? Est-ce qu'elle a été en colère parce qu'elle a eu l'impression peut-être de pas être compris? Parce qu'elle a tout de suite dit « Ah mais non, mais je voulais pas la critiquer, je sais juste exprimer que moi, j'aimais pas. »
C'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs.
Oui, elle l'a dit tout de suite. Et elle est punie quand même.
Oui, oui, parce que c'est aussi une leçon aussi à donner aux autres, à faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable.
Tu peux me permettre un rapport de pouvoir et de contre-pouvoir?
Oui, c'est en fait.
C'est-à-dire, il faut voir l'univers comme un cosmos. C'est-à-dire, on n'est pas coupé de la totalité. On n'a que l'impression d'être coupé de la totalité parce qu'on a un ego, un jeu. Donc je suis différent des autres. Arrêtez. On est absolument à équanimité, la vie est la même pour tous, on a tous une égale valeur, donc c'est quand même démocratique. Mais le rapport de pouvoir et de contre-pouvoir, c'est-à-dire c'est une chose qui nous a joué les tours à bien des reprises, que ce soit les forces religieuses, le christianisme n'a pas toujours été aussi paisible apparemment qu'il ne l'est maintenant. Savoir que dans la notion de dernier sectaire, que dans des lieux apparemment paisibles, de sérénité, il y a l'eau qui coule, être bien conscient de la lecture de la réalité des choses, c'est-à-dire éviter les manipulations d'ordre spirituel. Moi, je dis que il n'y a pas que de la bienveillance dans l'univers, et qu'il est nécessaire de se prémunir à l'avance d'une hypothétique problématique. Moi, j'ai connu des lamas qui sont partis 40 ans avant l'arrivée de la Chine au Tibet. Ils sont partis parce qu'ils l'avaient vu à l'avance. Et ils sont partis dans leurs affaires, ils sont installés tranquillement ailleurs. Donc, ils n'ont pas été affectés. Cette forme-là, voir donc donc quelque part, poser les jalons de la paix également dans le monde consiste à connaître les règles du combat contre les pensées rétrogrades également. Donc quelque part, également la liberté, les droits de l'homme, la liberté de mourir dignement pour chacun, ne plus voir que des luttes de clochers, de nations et de différences, mais voir qu'on fait partie d'une totalité. Quoi.
Oui, en fait, je voulais aussi montrer que.
Deuxième partie.
Oui. Oui, du coup, je voulais aussi insister sur le fait que les émotions, en anthropologie du moins, on les voit comme des normes et comme des valeurs culturelles. Donc ce que je montre là, c'est le lien entre la démocratie qui a un système de valeurs de notre société et les émotions, comment ça façonne les émotions. Parce qu'on a des sociétés en anthropologie, il y a une anthropologue qui a étudié une ethnie dans les Philippines, où les gens là-bas, enfin, je ne sais plus si on pratique ça aujourd'hui, c'est des chasseurs de tête. Quand ils avaient un membre de la famille qui était mort, donc ils avaient une peine, une lourdeur dans leur corps qu'il fallait se libérer en tuant quelqu'un d'autre, en coupant une tête. Donc ça, c'est en fonction des normes d'une société. On ne peut pas imaginer qu'en France, par exemple, les proches qui ont perdu leurs proches dans le Bataclan vont aller couper la tête des assassins pour se venger, pour se libérer de cette... Là, en plus, dans les Philippines, c'est même pas à se venger de ceux qui ont... Parfois, ça peut être une mort naturelle, mais c'est le fait de se libérer de cette colère. On peut se libérer de la colère seulement si on tue quelqu'un, si on coupe une tête. Donc, c'est ça aussi. C'est la relativité des émotions qui s'inscrivent dans un cadre plus large de l'organisation politique de la société. Et du coup, pour passer à la... Du coup, en fait, pendant que j'ai décrit cette scène-là, j'ai réfléchi à cette question des émotions et au fait qu'on prend en considération les émotions des uns et des autres, bon, parfois, ou certains en détriment des autres, parce qu'en fonction des valeurs culturelles des émotions, je me suis posé la question, il y avait cet événement tragique de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Et donc, du point de vue anthropologique, les émotions, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas à la surface de la peau. C'est quelque chose qui traverse les corps, qui sont parmi les corps, qui circulent dans les corps. Et c'est aussi s'inscrit dans des conditions d'une époque, ça s'inscrit dans une profondeur historique. Et je me suis posé la question, est-ce que ces émotions que cet assassin, comment ces émotions ont été formées? Finalement, c'est dans les viscères que l'histoire peut se manifester aussi. Et c'est dans un acte aussi extrême, barbare, qu'elle peut se manifester. Je me suis posé la question, si on prenait en considération les émotions des uns et des autres, les vécus des uns et des autres, est-ce qu'on aurait pu empêcher aussi un acte pareil? Donc c'est une question que je me suis posée pendant que j'ai écrit cette... je ne sais pas si je suis claire dans ma question.
Oui, mais empêcher comment?
Empêcher dans le sens, là, moi je suis en France depuis... moi je viens du Kosovo, je suis venue en France en 1999. Et j'ai, en tant qu'étrangère, je sais ce que c'est d'être étranger dans un pays et de se sentir parfois aussi complètement ignoré dans ce qu'on est. Parce qu'on doit s'adapter à la culture dans laquelle on est. Et parfois, bon, moi je ne suis pas dans une situation où je me sens rejetée dans ce que je suis, mais je peux comprendre que quelqu'un qui est différent, qui a une religion différente, qui est musulman, le fait qu'on ne le reconnaît pas dans sa différence et qu'on cherche à lui imposer une façon de voir le monde qui n'est pas quelque chose qu'il partage. Je comprends très bien la mentalité musulmane parce que je viens du Kosovo, donc la majorité c'est des musulmans. Et je peux comprendre tout à fait comment on peut être frappé aussi par une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et je peux comprendre aussi que ça peut éveiller vraiment des émotions très fortes. Et je pense que ça aussi, le fait que cet acte s'est produit, je pense que c'est pas innocent. C'est pas juste une personne seule qui a été amenée à faire cet acte. c'est aussi des conditions dans lesquelles on est, on se situe. Je ne peux pas dire que c'est juste un psychopathe. Je pense que la psychopathologie se produit aussi dans un contexte particulier. Donc c'est la question que je me suis posée. Si on prend en considération les émotions des uns et des autres, et les différences, et les points de vue des uns et des autres, est-ce qu'on arriverait à ça? Est-ce que... c'est extrême comme question, mais on est dans une démocratie. Donc.
Oui, mais c'est bien. Et puis moi, ça me fait penser à la phrase de Lévi-Strauss, le barbare est celui qui croit en la barbarie. Enfin, c'est...
Oui.
Ah oui.
Mais c'est sûr que c'est des questions qui sont délicates et douloureuses, mais c'est des bonnes questions en tout cas.
Je peux dire, juste si vous, je vais pas 30 secondes pour 30 secondes. Il faut tout ce qui est pouvoir spirituel, il y a des religions en place. Et les religions, c'est un pouvoir religieux. C'est pas uniquement un pouvoir terrestre. Et donc tout le domaine spirituel. Tout le domaine des religions, il y a les guerres de religion, tout ce domaine-là. Donc tous les hiérarches visibles, invisibles, tout ce domaine-là, de la psychologie. Bon, une réalité objective, évidemment. Ça fait partie également d'un microcosmos en soi. Et donc ne pas être conscient de ce domaine que l'on porte en soi de la visibilité, qui est concret et qui a un aspect de réalité, peut amener à ne pas ne, donc voilà donc quelque part il y a des rapports de pouvoir et contre pouvoir, il y a des pouvoirs en place qui sont des fois opposés à la démocratie d'autres nations asiatiques ou d'autres nations. Il y a des domaines comme ça, on peut en parler très longtemps. Mais un rapport occulte également, occulte, caché en apparence, factieux, malveillant, il y a ces formes-là. D'après le rabbin de la mosquée de Paris, le Covid serait partie du nazisme, il l'a dit sexuellement. Donc c'est quand même une chose qui peut interpeller.
Tu voulais un dernier ?
Alors, j'aime beaucoup votre question, et ça rejoint justement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, si la personne, si cet enfant est méprisant, c'est peut-être parce qu'il souffre. Et donc là, il y a quelque chose, je crois, qui ne peut pas vraiment se discuter, on est d'accord,
oui.
C'est un axiome, c'est-à-dire que l'homme est bon, et que, en fait, s'il fait le mal, c'est parce qu'il souffre. Et donc, quand vous parlez de cet homme, s'il avait pu exprimer ses émotions, s'il avait pu verbaliser, s'il avait pu être écouté, eh bien, il n'aurait pas eu besoin de faire le mal. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas?
Oui, je me pose la question. Est-ce que si on reconnaît la personne dans sa différence, si on lui donne une place à la reconnaître dans ce qu'il éprouve, si on le reconnaît comme un sujet éprouvant, qui éprouve, donc,
est-ce qu'on appelle sa colère?
Oui.
Ça dépend.
Et moi, je crois que oui, mais je crois que c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, c'est un choix.
C'est un choix. Discuter l'action, à ce moment-là. C'est l'action qui est discutable.
Tout à fait.
Qui demande à discuter.
Après, la vie ensemble appelle les choix, de toute façon.
Oui.
La question, c'est quel choix on fait pour. Enfin, quel choix on pense bon pour la vie ensemble, pour une vie ensemble apaisée.
C'est ça. Et moi, je me.
Oui. Ça me fait penser à ces écoles où, en fait, les enfants partent dans la nature toute la journée. Je me dis, en fait, nous, dans la société, on est en permanence dans cette pression-là de la gestion des différences, de la gestion des religions, de l'étranger. Et puis avec les élections, là, enfin, moi je me suis mis en retrait, mais on sent que la pression monte. Là, et en fait, la vie n'est que ça. C'est-à-dire qu'on regarde que ça, les médias regardent que ça, et du coup, il y a une pression qui monte, et puis il y a des tensions qui montent, et qui peuvent arriver à des telles rancœurs et colères que ça amène à des actes terribles. Et moi, j'aime beaucoup ta question aussi, parce que je crois qu'il faut. Il y a un ministre qui disait que les choses étaient tellement terribles qu'on ne pouvait plus les réfléchir. C'est terrible de dire ça. Parce que si on peut toujours réfléchir, même l'acte le plus terrible doit être réfléchi et on doit essayer de.
Oui, c'est ça.
Et moi, c'est vrai, quand je vois ces gamins partir dans la forêt toute la journée et leur dire en fait, il n'y a pas que la tension de ton petit voisin Mohamed et machin, ou c'est... puis avec les parents qui racontent des choses, il y a aussi tout un autre univers en fait. Et je pense que dire que le monde ne se limite pas à ces tensions-là, prendre aux enfants qui peuvent tout simplement mettre leur regard, leur énergie sur toute autre chose, et que le monde n'est pas du tout limité, enfin, le cosmos
n'est pas du tout limité à cette tension sociale, mais qui a tout un autre univers. Enfin, moi, si je devais faire des choix, puisque après, on a, il y a l'histoire de croyance, mais c'est d'abord des histoires de choix. Moi, c'est vrai que j'apprendrais aux enfants à porter leur regard sur toute autre chose, en fait.
Ce qui relève l'idée de changer de cadre. Je vais faire l'analogie avec le cadre de la télé aussi. Mais c'est vrai, changer le cadre, mettre les mêmes personnes dans un cadre différent, peut-être plus beau, plus paisible, moins tourmenté par des perturbations extérieures. Effectivement, je pense qu'on modifie fondamentalement l'émotion.
Le stress répété, pour une personne qui n'a pas la chance à la naissance d'avoir une famille qui a le moyen, il y a une catégorie de stress répété, perpétuel à tout moment, qui fait qu'une personne un jour fait sauter une bombe. Parce qu'il devient une sorte de bombe humaine lui-même, donc il se fait sauter lui-même carrément. Donc c'est le stress répété.
T'as fini ou tu...
Oui, je rebondissais juste parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant, effectivement, de. La question que tu viens de poser, de s'interroger, effectivement, on sait qu'on est agi par des émotions, parce qu'on n'est pas tous des maîtres zen, donc effectivement, c'est de se contrôler, soit à peu près éduqué, mais on est quand même agi par nos émotions. Et se dire que si je suis agi par mes émotions, la personne qui est en face de moi, c'est exactement la même chose. En tant que soignant, on sait qu'on peut déminer quelqu'un simplement en ne rentrant pas dans sa colère, simplement... quand la personne arrive hyper agressive, là, oui, je comprends. Asseyez-vous, on va prendre le temps et tout de suite. Soit je mets en larmes, soit ça.
Oui.
Donc on peut désamorcer les choses en étant empathique, simplement, en réfléchissant pas que à l'émotion qu'on vient de percevoir, parce que la personne qui est en face de moi est hyper agressive, j'ai juste envie de mettre un coup de boule. Mais en fait, cette personne, si elle. Voilà. Essaye voir de lui faire un grand sourire et de lui dire ah ouais. Comme si elle saignait, en fait.
Oui, c'est
comme
à vous
si sa colère, c'était une blessure. Elle dirait, je vais m'occuper de vous.
Voilà.
Moi, pratiquement à tous les coups, la relation se renoue dans une paix et dans une coopération qui est formidable.
Il suffit de peu.
Mais si moi, je me laisse aller par ma propre frustration, mais je suis attaquée, quoi. Je suis attaquée, donc j'ai le droit de me défendre. Si je me défends, c'est mort.
Et sur la question des...
Il a dit 30 secondes, alors je vais accorder. Allez, là, puis après, on retournera.
Ce qui m'arrive, là, ce que j'entends, enfin pour moi, c'est les rapports entre l'émotion et la loi.
Oui,
c'est exactement. On a une législation en France qui, en fait, permet, autorise des tas de choses, la liberté d'expression, la liberté de culte, etc. Bon, et qui est extrêmement tolérante, chacun, enfin les droits fondamentaux de la Révolution ou autre, nous permettent de vivre correctement en respectant l'autre. Et si je ne le respecte pas, effectivement, je tombe sous le coup de la loi. Donc, les émotions, c'est intéressant à leur référer quand même à leur incarnation et à la loi qui est en arrière-plan.
C'est ça.
30 secondes.
C'est ça.
Est-ce que je peux juste dire quelque chose par rapport à ça? Parce que
je sais vous
que...
arrangez avec votre conjoint, je sais pas. J'allais passer là, puis
la dame là-bas.
Je t'ai pris.
Oui, moi ce que je me dis les émotions, c'est quand même... parce que là, par exemple, le dégoût, enfin, une autre émotion, si dès la petite enfance, c'est comme une... J'ai peur que ça soit après, c'est un conditionnement de dire ah non, plus de dégoût, plus de.
Oui.
Et qu'après, des moments où la peur, moi j'ai envie de garder mes émotions parce que c'est ce qui me fait être vivante. Après, comment je les traduis, qu'est-ce que j'en fais, c'est ça, c'est... d'accord, je travaille là-dessus, mais j'ai quand même envie de garder mes émotions. Je suis vivante avec ça, autrement. Oui. Parce que j'ai des amis, par exemple, qui se disent, ah ben non, la colère, faut pas être en colère, toujours. Alors, oulala, ce matin j'étais en colère, ou j'étais triste, qu'est-ce que je peux faire? Mais non, enfin.
Oui,
il faut accepter finalement.
C'est ça,
faire avec.
Comment je peux accepter, vivre avec, et puis après, des émotions agressives, effectivement, comment je peux les traduire et que ça soit acceptable. Acceptable, entendu, acceptable par la société,
par la loi.
Mais je ne vais pas me couper de mes émotions, parce que alors je suis un morceau de bois mort.
Moi, personnellement, je ne vois pas ça comme un conditionnement, parce qu'il y a une explication, il y a un dialogue autour de ça, et on explique aussi la raison pour laquelle ça a été fait. C'est pas, je ne vois pas, parce qu'il y a toujours des dialogues assez, qui sont liés à la situation.
Mais si ça se reproduit souvent, ça peut dire ah non, surtout
oui,
pas ça.
Oui, peut-être,
surtout
oui.
Pas ça, je passe à la trappe. Mmh. C'est pas une bonne émotion, quoi.
Oui,
il y a cette construction risque-là. Permanente, quand même, moi que j'entends tout le temps oui. Tout ça, qui est au fur et à mesure que les situations se présentent, on oui. Construit ce qui est souhaitable aussi.
Oui.
C'est à la base de la méthode, mais de ce oui. Qui se passe ici. Hein. On travaille sur les expériences, on fait des analyses d'expériences, et on oui. Revoit la théorie en fonction.
Oui, c'est ça.
La parole est à
droite. J'ai l'impression de revenir un peu en arrière.
Oui, je suis désolé, c'est...
Non, c'est pas grave, c'est... Oh, je vais y être... C'est, bon, alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais dans cette idée que l'émotion est quelque chose à gérer, et que individuellement comme collectivement, j'apprécie votre vision de dire le ralentissement, le silence, la pression de communication est quelque chose qui n'est pas positif dans la gestion des émotions individuelles et éventuellement collectives, et qu'au contraire, il faut laisser du temps. Il y a une théorie, un truc qui m'a toujours travaillé depuis des années, et c'est une sorte de théorie historique débile, et elle vaut ce qu'elle vaut, et elle est très simpliste, mais il y a une corrélation historique entre les grandes crises dès la guerre de religion, des périodes révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution française et encore plus du XXe siècle, et l'émergence de modes de communication plus avancés, l'imprimerie, les journaux et au XXe siècle, radio et télévision. Et je pense que dans la peur moderne, enfin que nous avons tous, de cette entre guillemets crise de la démocratie, dont on sent peut-être qu'elle vient et qui enfin peur au sens, mais à un sens positif de questionnement, je dirais, il y a un questionnement sur ce que je fais avec mon téléphone depuis une heure, quoi. Et je pense que c'était une question qui sous-tendait beaucoup de réflexions ici. Et je pense qu'on peut dire explicitement que l'accélération de la perception des émotions, de se dire
oui.
Ce truc-là, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas comme dangereux et enfin, qui pose des problèmes en tout cas. Voilà.
Oui, bah justement, eux, ils travaillent aussi sur ça parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, il y a une rapidité aussi dans ce qui nous rend beaucoup plus impulsifs aussi. Voilà. Et ce rituel de régler les conflits une fois par semaine. C'est aussi d'apprendre aux enfants quand ils mettent une fois, quand ils écrivent leurs plaintes. Par exemple, si j'ai un conflit maintenant, je suis peut-être en colère et je vais noter sur le coup de la colère que Jean, il m'a insulté, etc. Je veux absolument traiter cette question-là. Et le jour, une semaine après, quand on discute, la prof, elle prend la note, elle dit « Est-ce que c'est toujours d'actualité ?» Je dis non parce que j'ai oublié que je me suis disputée avec lui. C'est pour leur faire comprendre aussi parce qu'ils disent on devient de plus en plus impulsif aussi à cause des technologies, et donc il faut aussi faire comprendre à travers l'expérience que l'émotion ne doit pas être gérée tout de suite, parce que parfois elle nous obnubile, elle nous empêche de penser, et une fois qu'elle a décanté, qu'on arrive du coup à réfléchir de façon plus lucide. Donc ça, c'est aussi un des objectifs.
C'était la boîte à idées de Freinet. Les enfants qui avaient un problème, ils l'écrivaient, ils le mettaient dans la boîte à idées, on l'ouvrait 2-3 jours plus tard, ce que vous dites.
Ah oui, oui,
ça, ça avait désamorcé
Oui, ça inspire certainement aussi de ça, parce qu'ils doivent les repenser autrement.
Mais vous avez jamais entendu ça, je ne sais plus dans quelle culture ça se fait, le vase avec les petits cailloux, ça peut être dans un couple. Chaque jour, tu mets un petit caillou en fonction de ton ressenti global, de ta relation à l'autre. T'as des petits cailloux d'une blanc couleur et de l'autre couleur. T'as blanc un caillou qui représente une couleur qui va représenter. Oui, je dis volontairement pas les couleurs, ça m'énerve cet utilisme blanc-noir. Tu choisis une couleur qui est le bien, qui est les ressentis bons et une couleur qui est les ressentis
agressifs.
C'était pas terrible aujourd'hui. Et puis, tu choisis une périodicité et puis tu sors tes cailloux tous les deux et puis tu regardes et puis t'en parles.
Ah,
je sais plus dans quelle culture ça se fait, mais je trouvais ça. C'est assez chouette.
Je veux dire un petit mot simplement.
Oui, bien sûr.
C'est la notion d'immédiateté qui me paraît présente, mais simplement je veux faire un lien. Vous allez en entreprise, l'immédiateté c'est le retour sur investissement immédiatement. Simplement un petit détail en passant comme ça.
Oui, c'est ça. C'est l'immédiateté, peut-être qu'elle se trouve aussi dans d'autres formes.
C'est un fonctionnement social pour l'instant.
Oui.
Est-ce que ce qui
est de près moins la des mécanismes fondamentaux de la démocratie, c'est de ralentir l'action de la justice, de prendre le temps, de l'action législative qui par définition doit être lente, et même de l'action exécutive qui doit être contrôlée immédiatement pour éviter.
Oui, c'est intéressant ça, j'avais pas pensé.
Si
ceux qui parlent moins
ont parlé beaucoup de contre-pouvoir.
Oui.
Tu parlais des côtés de souffrance et des réseaux terroristes, mais en fait, ceux justement qui font sauter des cervelles avant de faire sauter la leur sont écoutés, mais pas forcément par des personnes qui seraient dans l'optique du vivre ensemble, en fait.
Donc, mais
vu la masse et le nombre, pour moi, ça paraît, à moins qu'il y ait vraiment des années, des générations avec une inertie qui se met en place, mais quelque chose qui ne serait pas forcément évitable avant un sacré bout de temps.
Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la profondeur historique ?
Bon, c'est vieux comme le monde pour moi. Il y a toujours eu des dilettants, des mouvements alternatifs violents, à beaucoup de sociétés et de façons de fonctionner.
Une précision, on ne parle pas de la même écoute, on ne parle pas d'être écouté. J'ai un discours et j'ai une vérité que je vais te transmettre et tu m'écoutes. On va parler d'une écoute intérieure, c'est-à-dire que, par exemple, à ce monsieur, on va lui demander mais qu'est-ce qu'il ressent ? Pourquoi il vit sa violence ? On va pas lui demander de nous raconter pourquoi toutes ces idées, pourquoi ces idées sont vraies et il a raison d'être violent. Est-ce que j'exprime ? C'est pas du tout la même écoute, c'est une écoute, d'écouter l'autre. C'est pas une écoute de son discours, c'est une écoute d'un discours qu'il ne sait même pas prononcer. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'intérieur.
Viscéral, presque, tellement.
Est-ce que j'exprime ou pas ?
Pour moi, c'est un peu kiff. On apprend à vivre ensemble. Dans l'autre, on apprend à éclater une opinion divergente.
Je pense qu'on n'est pas séparés. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, moi, je me suis posé la question, est-ce que le but, c'est d'imposer des valeurs, de la laïcité, qui est pour moi à la fois presque comme une religion, finalement. C'est presque une religion fondamentaliste qui n'est pas une religion. Mais le fait d'imposer comme ça, et de ne pas donner place à la parole à l'autre, c'est imposer, en fait, un point de vue. Et ne pas écouter l'autre, ne pas le considérer dans son point de vue. Et c'est en quelque sorte créer de la violence, c'est produire cette violence-là.
Après,
c'est en fait, du coup, les relations, ça se fait à deux, c'est une co-création. C'est pas une personne, moi je vais pas me comporter d'une façon désagréable face à un amour, à un respect profond. À moins que je sois complètement déséquilibrée, ça c'est autre chose. Mais je ne pense pas, je vois pas dans l'histoire, j'ai pas, dans mon expérience, j'ai jamais vu des situations comme ça. Ou quand on traite quelqu'un avec un respect profond et on le considère, je ne pense pas que la personne va réagir d'une façon complètement agressive. Je ne pense pas. L'agressivité, on la provoque aussi. Et je pense qu'elle se co-crée, on crée les conditions pour qu'elle émerge. Et là, je me suis posé la question, est-ce que l'important, c'est de vivre ensemble dans la paix ou est-ce que l'important, c'est d'imposer la laïcité comme un modèle supérieur à tous les autres modèles? C'est ça pour moi qui crée la violence.
C'est une très bonne question, pour la démocratie. J'aurais pas la réponse dans le sens où, pour moi, il n'y aurait pas de paix si des modèles. Parce qu'un modèle peut être basé sur la destruction de la différence, en fait. Il y a dans l'extrémisme des mouvements de pensée, que ce soit catholique ou n'importe quel prisme religieux, on peut trouver de l'intolérance, de l'agressivité, de l'injustice, de l'immoralité, mais ça c'est extrêmement subjectif, l'immoralité. Et justement, c'est mon point de vue, mais si on n'impose pas le « taisez-vous, asseyez-vous, arrêtez de vous taper dessus », pour moi, ça fera toujours partie du jeu. Dans le sens où on trouvera toujours une façon de penser agressive qui voudra dominer l'autre. Et si on ne lui tape pas sur les doigts de force en lui disant « maintenant tu tais », elle sera là et elle essaiera de se trouver des ennemis pour continuer d'exister, en fait. C'est une façon d'être là, mais ça fonctionne, ça se transmet, et c'est un combat, et des gens bouffés par le désir ou des émotions trop violentes pour trouver des réponses à leur frustration et leur souffrance, tomberont dans le système.
Je ne sais pas, si quelqu'un d'autre veut peut-être réagir.
Ça me fait penser, on avait fait une soirée sur l'amour thérapeutique et... à partir d'un bouquin qui s'appelle
Un amour qui guérit.
Un amour qui guérit.
Et on avait amené à cette soirée la notion qui, moi, me paraît très intéressante, qu'on peut guérir en aimant la personne. Et il y avait les réactions étaient très waouh, c'était je sais pas si c'était la soirée, ouais, mais il y avait plein de gens qui disaient, mais en fait c'est pas quoi là, c'est enfin, ou le rapport avec le soin, il y avait les médecins notamment qui avaient une réaction, et je, ouais. J'aime bien cette notion que tu amènes à de l'amour, parce que pareil, bon, quel candidat va être le candidat de l'amour,
oui. Dire,
et en même temps c'est tellement évident ce que tu dis, que quand tu es dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, enfin l'amour ouais, au sens large, enfin hier pourrait décliner les différents amours des Grecs, mais l'agapé, tu vois, fondamentalement, ben oui, et on sent toute la force que ça peut avoir en politique, et on sent à quel point on est loin de toutes ces questions, enfin, qu'on peut même pas, ça prête juste à rire, quoi. C'est-à-dire, si tu vas dans le débat politique, moi je propose qu'on s'aime, ben, c'est de la Ségolène Royal, bon, je pensais que c'était son programme, mais bon, elle était là avec les uns les autres, mais évidemment ça fait rire, et pourtant on perçoit qu'il y a quand même quelque chose de vraiment très intéressant, vas-y, dis après.
Non, mais pour rebondir, toi, en fait, enfin, moi j'ai l'impression que quand je t'ai...
Salut Eva.
Merci de te voir. Que ce point de vue, il s'inscrit beaucoup, enfin cet enchaînement en fait de violence et de domination, qui s'inscrit effectivement dans le système actuel, qui pour moi échoue complètement dans les liens concrets. Enfin, le système actuel, et peut-être que ça échoue depuis la nuit des temps, j'en sais rien, ou alors peut-être qu'il y a des peuplades qui ont réussi à trouver des moyens, mais j'ai l'impression que ça demanderait une rééducation tellement radicale, en fait, une transformation de nos manières d'être au monde, d'être en lien. Tu vois, toi, tu parlais de ce terroriste. Alors, c'est marrant, parce que je me suis posé exactement la même question que toi, mais d'une manière un petit peu différente, dans le sens où toi, tu parlais beaucoup de la divergence culturelle, finalement, du fait d'être un étranger, de pas... Voilà, être où il n'y a pas d'écho en fait, hein, par rapport à la religion, enfin il y a ou autre en fait, hein, au niveau culturel des références. Mais moi je pense que c'est même au-delà de ça, tu vois, c'est quand tu regardes le parcours juste de ces gens, pas tous, mais de ce que moi j'ai pu voir, c'est des parcours complètement cabossés, avec des enfances abîmées, détruites, qui ont vécu dans des foyers, etc. Donc à un moment donné, que fait la société de l'individu, à quel moment, moi je suis persuadée que s'il y avait des attitudes compassionnelles, empathiques, des vrais espaces d'écoute profond, comme tu dis, c'est-à-dire des espaces de reliance, mais à un niveau... Enfin, ce que moi j'appelle l'empathie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment, tu vas aller chez l'autre et tu vas venir mesurer exactement l'intensité de ce qui est vécu. Donc là, on est dans un système de reliance totale et ça créerait comme des ouvertures, des échappées lumineuses, en fait. Et tu vois, toi, tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, du confinement, de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu un mouvement de solidarité spontanée, etc. Et je me suis demandé, mais pourquoi, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement-là, mais parce que voilà, la situation était universelle, on était tous finalement atteints, alors, pas de la même façon, mais on est tous atteints par une situation auquel il n'y avait pas aucun moyen d'échapper. Donc finalement, on s'est retrouvés malgré nous, peut-être, à une grande échelle, dans une situation d'égalité, en tout cas d'horizontalité, où on avait plus cette impression de faire partie d'une totalité indissoluble, en fait. Et pourquoi est-ce que, à un moment donné, on a cette sensation qu'on va partager une condition humaine commune, en fait? Et comment est-ce qu'il y a ces fissurations de la fraternité qui peuvent avoir lieu justement quand il y a d'aussi fortes fragmentations des situations sociales, notamment génératrices de souffrance et autres, en fait, où on va venir stigmatiser l'autre, etc. C'est-à-dire que là, on était tous touchés de la même façon, donc il y a une réaction commune. Et je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est cette fragmentation en fait, des situations qui va générer des sortes d'îlots de souffrance. Moi, je vois ça comme ça, qui vont émerger ici et là. Et puis, comme on est tous éclatés, en fait, dans notre coin, finalement, ces gens-là... Enfin, il y a beaucoup d'abandon. Moi, c'est ça qui me marque. Il y a de l'abandon... vraiment un délaissement de l'autre, mais pas, alors ça peut partir d'un niveau finalement social, hein, mais du coup c'est comme si ça se diffusait à d'autres niveaux, notamment de la prise en compte de l'autre dans tous ses besoins, qu'ils soient des besoins de survie, des besoins émotionnels, etc. Donc pour moi ça repose cette question en fait de l'émergence d'une prise en considération de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire en fait, à quel niveau ça se situe, etc. Moi, je ne sais pas si je suis claire dans mon discours même. Je sais pas, moi en tout cas, ce qui me fait penser, le fait d'avoir eu ce sentiment d'appartenance pendant ces conditions-là, c'est comme si on avait besoin aussi des conditions similaires pour se retrouver ensemble. Je sais pas comment c'est possible de trouver ce sentiment d'appartenance à part d'être, moi par exemple, quand j'ai vécu au Kosovo pendant la guerre, j'ai jamais senti une proximité avec les gens par le fait d'être menacée, d'avoir tous la même peur. J'ai vécu toute seule dans des grandes villes. J'ai senti une grande solitude et un sentiment de séparation avec les autres, mais jamais j'ai été plus heureuse que pendant la guerre, pendant ce moment où il y avait vraiment cette solidarité et ce sentiment intense de partage d'émotions collectives. C'est alors que j'ai vécu la liberté seule. Enfin, c'était aucun plaisir pour moi. Mais c'est les conditions, les contraintes de l'extérieur qui ont façonné aussi ce sentiment intense de partage.
Mais vous étiez tous concernés, tu vois. C'est pas pour comparer, mais je veux dire, c'est dans le sens où, voilà, tout le monde était concerné, en fait. C'est quand je parle d'éclatement, de fragmentation et d'abandon, c'est de ça que je parle, en fait. C'est comme si tout à coup, bah, le petit étranger qui va dormir sous sa tente, il se démerde. Ça me concerne pas. Moi, je suis pas dans la même. Donc, il y a une difficulté à se reconnaître, finalement, dans la même humanité à un moment donné.
Ah oui.
Tu vois, il y a ce truc-là, en fait.
Oui.
Pour moi, ça pose vraiment cette question. L'école, je trouve que c'est un bon terrain, en fait, parce que du coup, malgré toutes les différences, ils se retrouvent dans un espace commun où je dis pas qu'elles sont gommées, mais tu vois, en théorie, le traitement des uns et des autres, c'est pas ça qui agit, en tout cas.
Est-ce que vraiment il y a une pensée qui nous dirige? Est-ce que le gouvernement actuellement est un gouvernement qui englobe la totalité des êtres? Pour les anciens, à l'époque de Confucius, il y avait la bienveillance volonté du ciel. C'est-à-dire le ciel unité qui était la pensée en soi, le père, la mère en soi. Bon. Il y avait également les ancêtres qui étaient intégrés, les fantômes qui étaient intégrés dans la famille. Il y a des choses qui ne vont pas en démocratie. L'humanité par rapport aux animaux. Les animaux qui sont traités pour les anciens, un animal. Moi, j'ai connu des lamas quand ils mangeaient de la viande. Ils avaient toute leur vie durant un tas de rituels pour l'esprit de l'animal, pour faire progresser jusqu'à la Bouddha. C'était intégré dans leur cosmos. Pour les Égyptiens également, les animaux, ils étaient sacrifiés. Ils faisaient partie, par exemple, pour les Juifs, par exemple, la Kabbale, il y a les chérubins qui sont des animaux, qui sont d'un ordre hiérarchique de la divinité au 6e ou 7e ciel. Donc, ils sont pensés par les anges. Bon. Dans tout ce domaine-là, c'est tout, mais...
Si on veut revenir sur la notion de l'éclatement, je ne sais pas si tu voulais répondre. Je reviens à la question.
Non, ça me fait réfléchir, parce que je n'avais pas du tout pensé à... J'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé comme ça, en tout cas. Mais oui, moi, j'ai vu plutôt un sentiment d'appartenance et comme s'il n'y avait plus vraiment de différence. On était tous touchés par les mêmes conditions, presque. Bon. Après, il y avait des gens qui étaient...
Ouais, je suis d'accord sur le terme... Oui. Pardon, excuse-moi. Mais juste concerné plutôt qu'à égalité, pour avoir vu des grosses différences, que je suis aussi enseignante par ailleurs pour les élèves nouvellement arrivés en France. Bah, pour le coup, les différences de situation étaient énormes et vraiment une grosse difficulté sociale, urgence sociale. Enfin voilà, c'était autre chose, des familles, une grosse peur de ne pas sortir. Mais en tout cas, voilà, sur le terme concerné, ouais.
Oui, peut-être que les autres, ils veulent... Enfin, moi, je ne veux pas monopoliser la parole, peut-être que...
On a 30 secondes à gauche, là.
J'ai demandé 30 secondes. Hein, mais on ne me l'impose pas, c'est pas une norme.
On lui donne. 30, c'est quand même beaucoup.
30 secondes.
J'ai déjà perdu 30 secondes, au moins. Là. Non, simplement, je voulais qu'on introduisait un débat sur la laïcité, celle qui enferme.
La religion.
Comme enfermante. Une laïcité qui en fait ouvre sur des singularités et qui permet justement des singularités d'exister. Je pense que c'est ça la laïcité à la française, qui d'ailleurs n'est pas compris dans les autres civilisations. C'est tout.
J'ai fait des modestes recherches sur la laïcité, enfin sur le racisme d'abord, mais en fait c'est sur la laïcité, et auprès d'élèves, des collégiens. Et ce que montrent la recherche, c'est que finalement la laïcité, la règle, est tout à fait connue, est tout à fait acquise. Par les élèves, par exemple, ce concept de liberté de conscience, ils le connaissent parfaitement en 6e à 12 ans. Par contre, quand on leur demande s'il est possible de critiquer la religion de ce voisin, alors qu'on leur a expliqué que la règle, c'est bien que c'est possible en France de critiquer la religion, on ne critique pas la personne, mais on peut critiquer la religion. C'est cette liberté de conscience. Eh bien, à ce moment-là, ils ne sont plus d'accord. Plus du tout d'accord. Parce que nous sommes sur un autre plan. Nous sommes sur alors que le premier, nous sommes de l'ordre, c'est un exercice de raison. Nous sommes sur un plan cognitif, intellectuel.
Constitutionnel, juridique.
La seconde question est un ordre intime, l'ordre de l'intime, du sensible, de l'émotion. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un rejet. Et donc je trouve que c'est intéressant, et je vois dans ce qu'on nous sommes en train de dire, c'est vraiment comment on fait interagir finalement la psychologie de l'être, son rapport à lui, à l'intime, à l'émotionnel, et la norme sociale. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est pas très clair sur cette articulation. Ouais.
Je vois que
vous m'avez dit. 30 secondes maintenant.
Moi qui connais Kakol Kassadalma, ce sont des êtres qui cherchent à englober l'univers entier en eux. Et certains, s'ils ont un rapport psychologique défectueux, peuvent faire beaucoup de mal. Et on s'en rend compte quand on médite depuis de nombreuses années qu'il y a un examen spirituel qui peut être en partie psychotique, il peut avoir un comportement extrêmement négatif. Parce que c'est des êtres qui cherche un pouvoir d'ordre phénoménologique et peut-être même le pouvoir. Le Tibet est un pays très particulier, de toute façon, par magie. Vous avez dû étudier, je pense, ce domaine-là, mais il y a dans la pensée magique des fois des pensées absolument folles qui débouchent depuis le début de l'humanité. Où il y avait au début de l'humanité des choses comme en Perse, des cultes comme celui de Moloch, avec des sacrifices humains qui se faisaient à l'époque. Et cette chose-là, on en est issu, il y a un autre nous-mêmes, elle existe encore. Donc quelque part, c'est ce rapport entre bien et mal, toutes ces forces en soi que l'on a, peut-être qu'on est arrivé pour certains à une forme de culture. Par la parenté, la chance des rencontres, des gens intéressants, certains n'ont pas eu cette chance. Encore. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc, il est nécessaire de faire arriver la culture mondialement à tous les niveaux. C'est-à-dire, s'il y a du feu, il faut éteindre le feu. Et le feu, il est également intérieur. Il y a des gens qui sont également, quand on est en psychiatrie, comme on l'a fait ces jours, qui sont dans des rapports infernaux, d'alginations, des rapports de pathologie, visités par un univers qui est fantomatique comme ça, qui est considéré comme potentiellement un concept de psychose ou psychotique. Et est-ce que j'aurais pas une part de réalité dans ce domaine-là? Donc tout ce domaine-là, quoi, hein, de la psyché, de l'imaginaire.
Là, on est entre 47 et 48 secondes.
Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Vous voulez intervenir, il me semblait. Non. Oui. Allez-y.
Bon, je pensais à Samuel Paty, c'est quand même... Il y a eu un relais. Je veux dire, il n'était pas seul. Je veux dire, il y avait un relais de gens qui ont été dans une détresse pour arriver à cet assassinat, quoi. C'est... Il y a eu un enchaînement seul.
Et avant ça, il y a eu, un petit peu un résumé de tout ce qui a été exprimé là, il y a eu
la rapidité d'une communication, d'une anecdote qui s'est passée en classe, et une émotion collective qui a soufflé sur cette braise-là, et qui a allumé peut-être, qui a servi de prétexte à cette personne-là, qui serait peut-être jamais passée à l'acte, sans l'émotion qui a été créée.
Peut-être qu'on va s'approcher de la fin.
Oui, je voulais tout simplement dire.
Non, mais on a encore du. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu veux lancer.
Non, tout simplement demander la question que j'ai posée au départ, si vous aviez quelque chose à dire par rapport aux émotions. Quelle question, quel lien vous avez fait en pensant éducation, enfin, émotion et démocratie. Est-ce que ça vous a paru étrange? Et comment. Quelle conception vous avez des émotions? Est-ce que vous pensez que c'est des choses irrationnelles ou je ne sais pas? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots-là? Juste, si vous avez envie de partager.
Grand silence.
Ok.
Moi, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est nié, mais... je crois qu'effectivement, l'émotion a tout à... Enfin, la démocratie a tout à gagner de permettre aux émotions de reprendre le devant.
Oui, c'est une façon de réagir.
Et dans l'interaction, bien sûr, il ne s'agit pas chacun de regarder son émotion en disant « qu'est-ce que j'ai mal, qu'est-ce que j'ai pas, tout ça », mais effectivement, pour moi, c'est fondamental. C'est la seule chose qui puisse...
C'est sûr.
Pardon pour le mot, mais nous sauver,
Et ça supposerait le contraire, une indifférence terrible.
c'est ce qui passe depuis de nombreuses années.
Hein. Exactement, si l'émotion
est un mot et de concept.
L'émotion est un aboutissement en soi. L'émotion, peut-être qu'on peut même dépasser l'émotion. Quand en méditation, il y a un rapport de lumière interne, on va appeler la conscience pure, et qui se situe au-delà de l'émotion. L'émotion se tait pour une sorte d'état d'être, de paix, de lumière, et ce qui, dans certains cas, qui peuvent être des séries d'extase jusqu'à la béatitude. Donc, est-ce que là, on peut parler d'émotion?
Je crois qu'on a été dans le déni de l'émotion, nous, des amours, en français, amoureux de la raison. Et pas que français, en fait, parce que notre système politique, c'est aussi un système économique. Et la base de notre système économique, c'est la raison. C'est-à-dire que le mot economicus, c'est un homme raisonnable. Et l'émotion, on est totalement absente. Et donc, j'ai l'impression que récemment, il y a une intégration, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était complètement faux, que l'homme, finalement, est poussé par ses émotions. Et donc, je ne sais pas comment le dater, peut-être plusieurs décennies, on intègre, on accepte que l'émotion fait partie. Mais c'est peut-être pour mieux la transcender, pour mieux s'en émanciper. On sait que le déni émotionnel est dangereux. Et donc là, on commence à apprivoiser cela pour peut-être, effectivement, comme dit monsieur, en sortir et arriver à quelque chose de plus... peut-être plus calme, plus conscient et donc d'être moins le jeu de finalement de cela. Et comme vous dites, c'est-à-dire être un humain avec des émotions, mais sans être le jeu de. C'est ça, c'est vraiment ça.
Mais sans être coupé.
Mais sans être coupé, tout à fait.
Mais c'est difficile parce que au 19e siècle, l'invention de la démocratie, c'est de dire on va faire quelque chose qui sera raisonnable, c'est le triomphe de la raison, quoi. Et qui même a bien marché, on peut ne pas se plaindre, même s'il y avait des manifs, machin. Et c'est étonnant de dire que la démocratie, c'est de dire non, la raison doit dominer les émotions collectives, mais en même temps se dire, non, en fait, il faut les accepter.
Oui, c'est raisonner sur les émotions. Là, c'est ce que je semble comprendre de cette école, c'est réfléchir sur ces émotions. C'est une façon de les dépasser, peut-être, et de ne pas être mu par...
Je dis compagnon de vie ou compagnon de mort. Il y a des gens de vie.
Je trouve que la poésie, elles sont des éléments importants pour aider à trouver de l'émotion dans quelque chose qui est raisonnable. Pour essayer, il y a d'autres choses, mais la poésie, c'est...
Oui, tout à fait.
Ça, en politique, c'est vachement important d'entendre des formes de rhétorique positive, qui sont de l'ordre de la politique.
dans une alternative au règne de la raison, parce que est-ce que tout doit être basé sur la raison? Est-ce que la...
Mais le mot qui me vient, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est pas un mot, c'est un geste. C'est peut-être un peu naïf. Toutefois, je me dis que ce n'est pas sans la raison. C'est pas parce qu'on intègre désormais les émotions que la raison n'a plus sa place.
Oui. C'est une conciliation.
C'est une conciliation.
C'est bien important parce qu'elle disparaît pour l'instant.
Je sens que nous allons. Il est temps de.
Oui.
De conclure et d'emmener tout ça dans
avec la conciliation, c'est bien, ça suffit bien.
Merci, c'était passionnant.
En tout cas, merci.
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 Pour envoyer tes réflexions aux futurs candidats.
On n'a pas parlé.